France Info. France Info, les informés, Agathe Lambray.
Bonsoir à tous. Incompétence, insincérité, contournement du Parlement. Le gouvernement s'est retrouvé sous le feu des oppositions cet après-midi à l'Assemblée à l'occasion d'un débat sur la dégradation des finances publiques. Alors que la note de la France n'a finalement pas été dégradée par les agences de notation, le ministre de l'économie Bruno Le Maire rejette la comparaison. Non, la France n'est pas la Grèce de 2010, dit-il. Bruno Le Maire qui tend la main aux oppositions. Est-ce un répit en trompe-l'œil pour l'exécutif ? Un nouvel espoir de cesser le feu à Gaza. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé ce matin dans la région. C'est sa 7e visite sur place depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre. Et cette fois, il espère parvenir à faire taire les armes. Le chef de la diplomatie américaine appelle le Hamas à accepter une proposition extraordinairement généreuse de la part d'Israël. Je cite, qu'y a-t-il dans cet accord de cesser le feu? Quelles sont ses chances de succès? Nous poserons la question à notre expert David Rigoulet-Rose, chercheur attaché chez l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Une actualité du Proche-Orient qui continue de résonner en France. Après Sciences Po, la Sorbonne est touchée par des mobilisations d'étudiants en soutien de Gaza. Les insoumis, eux, sont chauffés à blanc par les convocations demain de deux des leurs pour apologie du terrorisme, Rima Hassan et Mathilde Panot. Est-ce à la justice de trancher ce débat ou assiste-t-on à une judiciarisation excessive en pleine campagne pour les européennes? Pas de quoi en tout cas arrêter les troupes de Jean-Luc Mélenchon qui encourage la mobilisation des étudiants. Sont-ils dans leur rôle? On en parle ce soir avec nos informés. Alexandra Schwartzbrock, directrice adjointe de la rédaction de Libération. Bonsoir. Patricia Alémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales, auteur du livre Au cœur du chaos aux éditions Artaud. Vous avez couvert tous les grands conflits pour TF1. Et puis François Ehrenwein, éditorialiste politique au journal Réforme. Bonsoir à tous les trois.
Bonsoir.
Les finances de la France étaient donc au cœur d'un débat sans vote cet après-midi à l'Assemblée. Il s'agissait de revenir sur le dérapage du déficit public en 2023, 5,5% du PIB contre les 4,9% attendus. Il s'agissait aussi de parler de la trajectoire à suivre pour les trois prochaines années. L'occasion pour les oppositions de taper très fort sur la majorité et le gouvernement, accusé de mensonges, d'insincérité et j'en passe, accusé de vouloir contourner le Parlement. Parmi les prises de parole, Jean-Philippe Tanguy du groupe Rassemblement National, écoutez.
Vous n'y arriverez pas et vous n'y arriverez jamais. Vous n'avez en réalité ni le courage, ni la détermination, ni les solutions pour rétablir les comptes publics et briser la chaîne d'incompétence des gouvernements qui, depuis 50 ans, ont mis les finances de la France systématiquement en déficit, accumulant 3 000 milliards de dettes. Votre arrogance, encore aujourd'hui, et votre prétention à réussir demain là où vous avez échoué, prouvent que le ridicule ne tue pas. Prenez garde, monsieur le ministre, que ce même ridicule ne vous protège pas de la débâcle électorale que les Français pourraient vous infliger le 9 juin en soutenant Jordan Bardella.
Des attaques auxquelles le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, a répondu. Il s'est une nouvelle fois défendu de toute insincérité. Il a dénoncé ce qui compare la situation de la France aujourd'hui à celle de la Grèce en 2010. Et il a même tendu la main aux oppositions. On l'écoute.
Je le redis, je tends la main à tous les parlementaires qui souhaitent rétablir les finances publiques. Venez participer à ce rétablissement de nos finances publiques, défendez cette stratégie. Et laissons de côté, une bonne fois pour toutes, les querelles politiques qui ne sont pas dans l'intérêt de la France.
La main tendue de Bruno Le Maire, c'est une tactique politique. Il tend la main, mais il va se la faire mordre, Alexandra Schwartzbrock.
Oui, alors là, chacun est dans son rôle. Hein. Jean-Philippe Tanguy qui tape comme un sourd sur le gouvernement. N'importe qui à sa place en ferait autant. Il n'est pas vraiment crédible, parce que je ne suis pas sûre que le RN est lui-même la solution. Et Bruno Le Maire, il exagère un peu, il est un peu gonflé, parce que ce que le gouvernement paye aussi, ce que la majorité paye en ce moment aussi, c'est l'absence de débat démocratique dans les hémicycle, hein, puisque la plupart des projets de finances, lois de finances, sont passés à coup de 49.3 ou de décrets. Il n'y a quasiment pas eu de débat. Et donc, ils prennent ça en boomerang en ce moment. Parce que les oppositions ont beau jeu de dire bah, « Attendez, vous avez fait ça dans votre coin et nous, on n'a pas été associés, il n'y a pas eu de débat. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?»
Et il arrive trop tard, François Ehrenwein, ce débat au Parlement ?
Surtout sans vote, c'est là-dessus qu'il faut insister, à mon avis.
C'est un débat pour rien, comme disent les oppositions ?
Ben non, les opinions vont s'exprimer, et le débat va se prolonger, rien n'est réglé. D'ailleurs, le Haut Conseil des Finances Publiques indique que les perspectives du gouvernement pour 2027 ne seront sans doute pas tenues. Et ça, c'est pas le cœur des oppositions. C'est des spécialistes des questions économiques qui disent ça. Les 3% en 2027, ce n'est pas encore fait. Mais il faut distinguer les débats. Moi, je pense que il y a le débat de fond sur les finances publiques, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles on débat en France sur des sujets aussi graves qu'un déficit public à 5,1%, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, je trouve que...
C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ?
Ben, il aurait fallu discuter sérieusement au Parlement et faire une loi de finances rectificative éventuellement pour qu'on parle sérieusement dans les procédures légales sur les questions budgétaires. Moi, ça me gêne beaucoup. D'ailleurs, cette manière de balayer le Parlement, elle est ancienne. Pendant la crise sanitaire, le Parlement n'a eu rien à dire et cette... Je pense que le mépris des corps intermédiaires, là je parle pas seulement du Parlement, est assez bien installé dans la majorité, et je pense que ça lui coûte très cher sur le plan électoral, dans ses relations avec les Français.
Je vous vois opiner de la tête, Patricia Lémonia. Le gouvernement a eu peur d'en passer par le Parlement ?
Le gouvernement, sur la loi de finances, oui, puisqu'il a fait que du 49-3, c'est que ça ne fonctionnait pas. Mais il y a deux choses là-dedans. Il y a le fait qu'il y a eu cette assurance de Bruno Le Maire et cette impression de mensonge volontaire pratiquement devant l'Assemblée nationale, alors qu'il n'y avait pas seulement Moscovici qui mettait en garde, il y avait aussi la Banque de France qui mettait en garde le gouvernement. Et ça remonte à déjà 2022. C'est ancien. Hein. Les finances publiques ne sont pas tenues, disaient certains corps, en tout cas, de l'État. Donc, il y a cette question-là. Et puis, je crois que cette inquiétude et cette rigidité que l'on voit au sein du gouvernement, ça vient aussi du fait que son marqueur à ce gouvernement, c'était quand même la tenue des finances publiques. Et là, justement, il est pris la main dans le sac. Il ne les tient pas, ces finances publiques. Et son électorat, principalement, est très attaché à la rigueur, à la tenue des finances publiques. Et donc, en période électorale, préélectorale, comme on est là, eh bien, ça fait plus que mauvais genre. C'est très mauvais.
Et on va y revenir, mais le paradoxe, je rebondis sur ce que vous dites, c'est que la note de la France n'a pas été dégradée par deux agences
oui,
de notation.
Attendons la prochaine.
Pour l'instant, on en reparle. Exactement, on en reparle juste après le Fil Info. Il est 20h10 avec Emmanuel Langlois.
Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux femmes en 2021 sur le tournage du film Les Volets Verts. Après avoir passé la journée en garde à vue dans un commissariat parisien, Gérard Depardieu sera jugé au mois d'octobre prochain. L'acteur s'est vu remettre une convocation devant le tribunal correctionnel. Quelques jours après une mobilisation émaillée de tensions à Sciences Po Paris la semaine dernière, la police est intervenue cet après-midi, cette fois à la Sorbonne, pour évacuer une cinquantaine de militants pro-palestiniens. Ils avaient installé des tentes à l'intérieur de l'université. Et puis aux États-Unis, le président de l'université de Columbia lui exhorte les manifestants pro-palestiniens qui campent sur le campus depuis deux semaines à se disperser après que les discussions ont échoué entre les protestataires et les dirigeants de la prestigieuse faculté de l'État de New York. L'étranger encore, Anthony Blinken, appelle le Hamas à accepter la proposition israélienne de trêve associée à une libération d'une partie des otages, selon lui extraordinairement généreuse. Une réunion doit se tenir au Caire entre des représentants d'Égypte et du Qatar. Après des mois de discussions infructueuses, le Hamas doit en effet donner sa réponse dans les heures qui viennent.
France Info.
20h, 21h, les informés, Agathe Lambray.
Retour en plateau avec nos informés ce soir, Alexandra Schwarzbrock, directrice adjointe de la rédaction de Libération, Patricia Lémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales, et François Ernenwein, éditorialiste politique au journal Réforme. Alors Patricia Lémonière, je vous entendais pointer la faiblesse de cet exécutif dans sa communication, notamment sur les finances publiques, mais en même temps, le gouvernement a peut-être poussé un ouf de soulagement. Vendredi soir, la note de la France n'a pas été dégradée par Moody's et Fitch, les agences de notation. Est-ce que c'est un faux répit, François Ernenwein ?
Il faudra attendre, on l'a dit à l'instant, le Standard & Poor's, c'est le 31 mai.
C'est la donc, plus importante des trois ?
C'est en tous les cas le jugement qui fait référence, en tous les cas. Donc, attendons la fin du parcours et des jugements des agences de notation pour avoir un avis assuré sur l'état des finances françaises quand elles sont notées à l'extérieur. Non pas que j'ai une confiance aveugle dans les agences de notation et leur fonctionnement, mais en tous les cas, c'est une référence.
Et ce qu'il y a, c'est qu'elle arrive, elle est particulièrement dangereuse, cette date, parce que ça va arriver à quelques jours des élections européennes. Et on Donc, si jamais c'est défavorable, ça va être très, très mauvais pour le gouvernement. Donc là, je pense que...
Ça va se couer.
Ouais.
Et visiblement, l'exécutif a des raisons de s'inquiéter à propos de ce que vous dites, parce que pour Pierre Moscovici, président de la Cour des comptes, eh bien Bruno Le Maire, qui veut qui vise en tout cas toujours un retour sous la barre des 3% du déficit en 2027, eh bien Bruno Le Maire, selon lui, est trop optimiste. Écoutez.
Je crois que passer de 5,1% à moins de 3%
en 2027,
c'est extrêmement difficile. D'ailleurs, vous observerez que les deux agences de notation, Fitch et Moody's, ont dit qu'elles n'y croyaient pas trop, en quelque sorte, qu'elles étaient sceptiques. Et pour tout vous dire, je le suis aussi. Il y a une chose très importante en matière de finances publiques, très importante. Il y a un débat à l'Assemblée cet après-midi. Il faut dire la vérité aux Français. Et quelle qu'elle soit, il faut leur dire d'où on part, et où on va arriver, et comment on fait entre les deux.
Alors Alexandra Schwarzbrod, est-ce que le gouvernement raconte des carabistouilles aux Français, pour reprendre une expression chère au président?
En tout cas, je pense qu'il a pêché par optimisme dans ses prévisions de croissance, puisqu'en 2023, c'était pas au rendez-vous. On en saura peut-être un peu plus demain mardi, puisque l'INSEE doit publier son estimation de l'évolution du PIB au premier trimestre. Donc ça pourra donner une petite idée de vers quoi on se dirige. Non, le problème aussi, c'est qu'il y a une division entre Bruno Le Maire et Emmanuel Macron. Ils n'ont pas tellement la même vision des choses. Bruno Le Maire voudrait un projet de loi de finances rectificative. Emmanuel Macron n'en veut pas. Bruno Le Maire voudrait jouer sur les dépenses, c'est-à-dire réduire les dépenses. Emmanuel Macron espère plutôt jouer sur les recettes, c'est-à-dire espérer que la croissance revienne.
Vous avez raison, ils ne sont pas du tout d'accord. Bruno Le Maire a voulu camper un peu le père la rigueur quand Emmanuel Macron lui faisait à sa façon. Il a perdu des plumes. Bruno Le Maire, c'est lui qui est en cause aujourd'hui aussi ou pas?
Ben en tout cas, la rentrée peut être compliquée, oui. Bruno Le Maire, là, il joue gros quand même en ce moment, et on sait qu'il a des ambitions. Il se voit un destin, et donc là, je pense qu'il joue un peu sur une ligne de crête.
Et ça va être d'autant plus difficile, Patricia Lémonière, que l'exécutif veut passer sous la barre des 3% de déficit en 2027, mais sans augmenter les impôts. Est-ce que c'est réaliste, ça?
Alors, non seulement ils ne veulent pas augmenter les impôts, mais ils sont en désaccord entre le président et Bruno Le Maire sur comment faire toutes ces économies. 10 milliards, 20 milliards, où les prendre, sur quel poste? Alors, tout le monde agite la réforme de l'administration française, qui est la fameuse... C'est en gros le gadget qu'on ressort chaque fois qu'il y a une crise. Il faut réformer l'administration française, il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, il faut simplifier... On entend ça, enfin, moi, j'ai l'impression qu'on entend ça depuis 20 ans, et qu'en fait, personne n'arrive à vraiment faire cette réforme qui, effectivement, ferait des économies, parce que notre pays a un nombre de fonctionnaires beaucoup plus important que dans bon nombre de pays. Et puis, ce qui est, je crois, aussi très inquiétant, c'est, au-delà de la France, c'est la situation européenne qui n'est pas bonne. Quand on regarde par rapport aux États-Unis et par rapport aux autres pays émergents, on a un réel décrochage. Décrochage de salaire, décrochage de revenus, même à niveau, si vous voulez, constant, en faisant des parallèles logiques, la vieille Europe, en quelque sorte, décroche. Et donc, c'est des problèmes de rentabilité de notre économie. Donc, c'est, si vous voulez, le président et Bruno Le Maire se retrouvent devant... En fait, ils payent 50 ans d'incurie, pratiquement.
Et ce point, Emmanuel Macron, le décrochage dont vous parliez, il l'a évoqué dans son discours de la Sorbonne numéro 2. Et en même temps, l'exécutif, depuis des mois, François Hennerwein, l'exécutif se félicite que sa politique de baisse des charges, baisse de certains impôts, ait rendu la France plus attractive. Alors, elle est où, la vérité? Les investisseurs reviennent ou c'est la catastrophe?
Non, on en revient à la question de la méthode par laquelle on a commencé. Incontestablement, les déficits appellent des réponses. Personne ne le conteste. Mais si vous voulez conduire une politique de rigueur relative après une période plus faste, etc., il faut bien admettre que ça ne peut se faire qu'avec l'adhésion des Français. En tous les cas, un travail...
D'ailleurs, on ne parle pas de rigueur, on parle de sérieux budgétaire.
Oui, mais enfin... C'est ça que ça veut dire. Quand on coupe dans l'aide au développement, quand on coupe les crédits à l'écologie ou à l'enseignement supérieur, on entre dans une logique qui ressemble étrangement à de la rigueur.
Donc, et on veut réformer l'assurance chômage.
Voilà, etc.
Donc, l'exécutif ne va pas chercher l'argent là où il faudrait aller le chercher ?
Bah, à mon avis, il n'a pas la bonne méthode. Ce que j'essayais de dire à l'instant, c'est que quand vous voulez convaincre les Français, et la pédagogie de la réforme a gagné du terrain en France sur plusieurs décennies, les Français admettent globalement qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi en matière économique. Mais encore une fois, si on n'associe pas les Français à travers le débat démocratique aux choix qui sont faits, ça ressemble au coup de gourdin qu'on assène. Et ça, c'est une méthodologie absolument déplorable et pas efficace, au fond.
Et peut-être que si l'exécutif est si prudent et si hésitant, c'est parce que, Alexandra Schwarzbord, vous en parlez, ce débat intervient dans le contexte d'une campagne laborieuse, on
difficile,
va dire, pour la majorité.
Oui.
Valérie Ayer, la tête de liste pour la majorité présidentielle, autour de 16-17% dans les sondages, distancée de plus de 10 points par Jordan Bardella. Finalement, ce débat sur les finances publiques, c'est la dernière chose que souhaitait Emmanuel Macron, non ?
Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. Et d'ailleurs, vous faisiez référence à son discours de la Sorbonne, hein, souvenez-vous, son deuxième point, c'était la prospérité. Et là, c'est vrai que là, on en est loin. Et ce qui est drôle, c'est qu'il a beaucoup poussé Emmanuel Macron pour que Bruno Le Maire soit tête de liste pour les européennes. Et Bruno Le Maire a refusé tout net. Non, là, c'est chaud parce que en effet, on n'est pas très loin de ce que la majorité voit arriver avec angoisse, c'est le croisement des courbes entre Raphaël Glucksmann, qui est tête de liste pour le Parti Socialiste, et Valérie Ayer pour Renaissance.
Exactement, parce que la majorité a aujourd'hui deux adversaires. Jordan Bardella, l'adversaire principal de 2019, mais la surprise de ces européennes, c'est Raphaël Glucksmann qui progresse.
Oui.
Est-ce que l'exécutif a renoncé à s'adresser à ses électeurs de centre-gauche qui sont tentés de voter pour Raphaël Glucksmann, ou est-ce qu'aujourd'hui il assume d'être de droite? On parlait à l'instant des coupes dans l'écologie, de la réforme de l'assurance chômage.
Je pense que vu ce qu'il annonce, il assume pas mal d'être de droite. Hein. Je ne crois pas qu'il fasse beaucoup d'efforts, qu'il ait fait beaucoup d'efforts ces derniers temps pour attirer sa frange gauche. Parce que quand on voit tous les retours en arrière dans le domaine de l'écologie, sur tout ce qui est en train de se détricoter sur l'assurance chômage, c'est franchement pas des signaux qui parlent beaucoup à sa frange gauche.
Vous voulez dire un petit
mot ? L'idée, c'était quand même de faire un gouvernement qui rassemble Renaissance et enfin la droite et le centre, en quelque sorte, hein, et en laissant les deux extrêmes de chaque côté et les partis socialistes et le reliquat du Parti socialiste. Et ça, Emmanuel Macron n'est pas arrivé à faire ce regroupement avec les Républicains n'ont pas envie de faire ce cadeau pour l'instant à Emmanuel Macron, puisqu'ils agit toujours, d'ailleurs, la menace d'une motion de censure. Même si, pour l'instant, il la laisse en suspens, mais elle est toujours là.
En se déportant à droite, il a perdu ce qui le constituait en 2017, ni à droite, ni à gauche, et il a perdu l'occasion d'occuper pleinement le centre, comme vient de le dire Patricia.
Il a perdu le dépassement. Ce sera le dernier mot de cette page. On va parler maintenant d'Israël, de la situation à Gaza notamment. Après le fil info d'Emmanuel Langlois, il est 20h21.
À Châteauroux, les gardes à vue de l'adolescent de 15 ans soupçonné du meurtre à coups de couteau d'un mineur du même âge et de sa mère ont été levés tout à l'heure. Ils vont maintenant être présentés à un juge d'instruction d'après le parquet. Une enquête pour homicide volontaire a été ouverte. Quelques jours après une mobilisation pro-palestinienne émaillée de tensions, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, annonce la suspension de tous les financements de la région destinés à Sciences Po tant que la sérénité et la sécurité, dit-elle, ne seront pas rétablis dans l'école. Et puis à la Sorbonne, à Paris, toujours une cinquantaine de militants pro-palestiniens ont été évacués aujourd'hui par la police à la demande du Premier ministre Gabriel Attal. La musique française reprend des couleurs grâce à des artistes d'aujourd'hui mais aussi d'hier comme Aya Nakamura ou Charles Aznavour. Les succès à l'export de la musique tricolore ont connu une hausse de 30% l'an dernier, selon les derniers chiffres du Centre National de la Musique. Et puis, à quelques semaines de l'Euro 2024 de football, le gardien de l'équipe de France, Mike Maignan, est blessé à l'adducteur droit, annonce son club, l'AC Milan. De nouveaux examens pourraient être réalisés la semaine prochaine en fonction de l'évolution.
France Info.
20h, 21h. Les Informés, Agathe Lambray.
Toujours en plateau avec Alexandra Schwarzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération, Patricia Lémonière, grand reporter spécialiste des questions internationales, et François Ernenwein, pardon, il fallait bien que ça arrive, éditorialiste politique au journal Réforme. Et puis nous accueillons notre expert David Rigoulet-Rose, chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Bonsoir à vous, merci d'être ici. Nouvelle tournée donc au Proche-Orient pour le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, sa 7e visite sur place depuis le 7 octobre, et cette fois, eh bien, il émet l'espoir de voir le Hamas accepter une proposition de trêve. Le Hamas, dont une délégation est attendue en Égypte aujourd'hui pour répondre à cette proposition. Est-ce que cette fois, c'est la bonne, David Rigoulet-Rose ?
Il semble que quelque chose se précise. Effectivement, il y a une accélération manifestement du calendrier. De la part des du Hamas, notamment Khalil al-Ayya, qui est le représentant de politique, hein, qui a dit qu'il n'y avait pas de problème majeur pour finaliser éventuellement un accord. Et puis, il y a des pressions très fortes qui sont faites. À la base, c'était une proposition formatée par l'Égypte, et il semblerait qu'effectivement quelque chose se précise. D'ailleurs, le secrétaire d'État américain a dit qu'il y avait une offre très généreuse.
Pardon de vous couper, mais alors justement, on va écouter le secrétaire d'État américain que vous évoquiez à l'instant, Anthony Blinken, qui a parlé de cette proposition aujourd'hui qui est sur la table.
En ce moment, comme vous l'avez dit, le Hamas a devant lui une proposition extraordinairement, extraordinairement généreuse de la part d'Israël. En ce moment, la seule chose qui se tient entre la population de Gaza et un cessez-le-feu, c'est le Hamas. Ils doivent prendre une décision et ils doivent le faire rapidement. Donc nous attendons cela et j'espère qu'ils prendront la bonne et que nous pourrons avoir un changement fondamental dans la dynamique.
Voilà, alors en quoi elle est extrêmement généreuse, David Rigoulet-Rose, cette proposition ? Qu'est-ce que l'on en sait ?
Il semblerait que le Hamas soit un cessez-le-feu temporaire de 40 jours. Avec une libération potentielle de milliers de prisonniers palestiniens. Et là, on voit que c'est un enjeu considérable pour Israël, parce que jusqu'à présent, c'était très sélectif. Et là, il y aurait eu, un assouplissement de la position israélienne, également sur le nombre des otages libérables, puisque les Israéliens demandaient 40 otages, et qu'ils auraient accepté que ça soit simplement 33, pour des raisons simples, c'est que certains d'entre eux seraient décédés. La liste qui a été établie, ajustée dramatiquement en fonction de ces considérations. D'ailleurs, ça fait écho à une déclaration de l'otage Hersh Goldberg-Polin de mercredi dernier, qui évoquait le fait que près de 70 otages auraient été tués, selon évidemment sa déclaration, dans le cadre du conflit à Gaza, sans savoir si c'était dû au bombardement israélien ou au Hamas en particulier. Mais donc il y a effectivement une accélération. Le problème, c'est qu'il y a un calendrier qui coïncide avec Pessah, puisque demain c'est le dernier
la
jour
fête,
de la fête
de Pâques juive.
Voilà, et ce serait étrange que ce serait singulier que le Hamas donne son accord le jour de ce dernier jour de Pessah, qui coïncide avec la libération justement des Hébreux d'Égypte. Donc on verra, mais en tout cas il y a effectivement des pressions très fortes qui sont faites.
Vous parlez de pressions très fortes, Patricia Alémonière, est-ce que c'est pour cela, du fait de ces pressions internationales, notamment que la position d'Israël s'est assouplie, ou c'est autre chose ?
Je crois qu'effectivement, il y a des pressions internationales. On a tous parlé des coups de fil entre Joe Biden et le gouvernement israélien. On a parlé de la pression sur les armes, puisque plusieurs journaux américains s'en sont fait l'état, que le gouvernement américain commençait à dire, si ça continue, si vous n'arrêtez pas, eh bien, nous, on va repenser les livraisons d'armes. C'est des livraisons qui se font pratiquement sur un mode obligatoire et informel depuis qu'un accord passé sous l'ère Obama. Mais donc il y a des fortes pressions et Israël, je pense, se croyait un peu, a senti son poing un peu à s'alléger après la riposte de l'Iran contre Israël. Et en fait, il n'en a rien été. Très vite, de nouveau, les protestations remontent. Les pays, il y a cette réunion qui est à Riyad en ce moment, où on voit tous les pays de la région maintenir une forte pression, là encore, en vue de la paix et d'une solution. Les Saoudiens ont rappelé aujourd'hui encore la solution à deux États. Enfin, il y a une montée des pressions tout autour. Alors, tout ça, c'est de l'international. Mais le Benjamin Netanyahou a sa pression intérieure. Et on a bien vu la double pression à laquelle il fait face. Certains ministres venant de l'extrême droite lui disant « Si on arrête la guerre, si on fait des accords et si on arrête la guerre, eh bien on quitte le gouvernement. » Et d'autres à l'intérieur du cabinet de guerre disant « Ah non, si vous quittez le gouvernement et vous refusez ces accords, eh bien on quitte nous aussi le gouvernement. » Donc en quelque sorte, Benjamin Netanyahu est en quelque sorte pris entre deux feux. Et je crois que là, à partir du moment où le Hamas accepte les conditions, on ira vers un arrêt des combats momentané. Je dis bien momentané, je ne sais pas ce qu'en pense votre invité, mais je pense que ça sera un arrêt momentané. Pour l'instant, c'est 6 semaines, enfin 40 jours, c'est 40 jours, pratiquement 6 semaines. Hein. C'est la question, c'est après, les Israéliens veulent reprendre la guerre, les Américains espèrent en la paix.
Alexandra Schwarzbrück d'abord et après David Rivière.
Il faut bien voir aussi, remettre aussi dans le contexte des États-Unis et de l'Europe, avec les élections américaines en novembre et les élections européennes qui approchent. Et il faut voir, et ça on en parlera je crois tout à l'heure, mais l'ambiance sur les campus. Imaginez qu'il y ait cette semaine l'accord de paix la trêve ne se fasse pas et qu'il y ait une entrée dans Rafah massive des Israéliens. Les campus s'enflamment aux États-Unis, à Paris, et là aucun, ni Biden, ni Emmanuel Macron, personne ne peut se permettre une chose pareille. Donc ce qui explique aussi qu'il y ait, et aussi dans les pays arabes, hein, où ça commence à chauffer. On voit bien que l'Arabie Saoudite est en train de mettre tout son poids dans la balance aussi, parce que les populations ne supportent plus la poursuite de cette guerre et ce qui se passe à Gaza. Et donc, ça explique la pression massive sur Netanyahou et aussi sur le Hamas pour qu'il y ait une trêve.
On en parle dans un instant. Merci Alexandra. David Rigolet-Rose, vous restez avec nous. Le point sur l'info avec Édouard Marguet tout de suite. Bonsoir Edouard.
Bonsoir Agathe, bonsoir à tous. Un procès pour Gérard Depardieu. L'acteur sera jugé en octobre pour agression sexuelle. C'est ce qu'indique ce soir le parquet de Paris. Gérard Depardieu qui a reçu cette convocation après avoir passé la journée en garde à vue dans l'enquête sur les soupçons d'agression sexuelle remontant à 2014 et 2021 sur des précédents tournages. Gérard Depardieu qui est déjà mis en examen pour viol dans une autre affaire depuis 2020 suite à une autre plainte déposée par la comédienne Charlotte Arnoux. Des militants pro-palestiniens évacués de la Sorbonne à Paris, une cinquantaine de personnes reconduites à l'extérieur par la police. Nouvelle journée de mobilisation après celle de vendredi à Sciences Po Paris qui avait été émaillée de tensions. Au sujet de Gaza, le chef de la diplomatie américaine appelle le Hamas à accepter une proposition extraordinairement généreuse de la part d'Israël. C'est comme ça que le dit Anthony Blinken. Il s'agit d'une trêve associée à une libération d'otages. Dans le même temps, l'armée israélienne a bombardé 3 maisons de Rafah au sud de l'enclave palestinienne, faisant 25 morts et plusieurs blessés. Le premier ministre espagnol reste à son poste. Pedro Sanchez a décidé de rester à la tête du gouvernement espagnol. Il dénonce la campagne de discrédit menée par l'opposition de droite. La dernière illustration a été selon lui l'ouverture d'une enquête judiciaire contre son épouse. Le retour de Victor Wembanyama en France sera temporaire pour 2 matchs avec la NBA et avec son équipe des San Antonio Spurs. Ils auront lieu ces 2 matchs à Paris en janvier face aux Pacers d'Indiana. C'est la 3e saison consécutive que la franchise nord-américaine organise une rencontre de la saison régulière en France.
France Info.
20h, 21h. France Info, les informés, Agathe Lambret.
Toujours avec Alexandra Schwarzbrod pour Libération, Patricia Lémonière, grand reporter, François Ehrenwein, éditorialiste politique au journal Réforme, et David Rigoulet-Rose, chercheur associé à l'IRIS, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. David Rigoulet-Rose, je voulais vous faire réagir à ce que disait Patricia Lémonière, qui redoute que cette trêve soit de courte durée. C'est votre avis aussi?
Oui, mais alors, si elle a pour lieu. Les Israéliens, effectivement, il n'est pas question, c'était un point d'achoppement depuis le début d'ailleurs, que cette trêve soit complète, achevée, définitive, parce que ce serait considéré comme de l'État hébreu, victoire du Hamas. En revanche, le caractère suspensif pour 40 jours permettrait de différer d'autant, de toute façon, une opération annoncée sur Rafah, pour laquelle d'ailleurs le secrétaire d'État américain a redit son opposition compte tenu du fait que le plan qui lui avait été présenté n'était pas jugé suffisamment crédible pour la protection des populations civiles. Donc finalement, tout le monde s'accorde, tout le monde. Et puis surtout, il y a un autre aspect qui n'a pas été évoqué tout à l'heure, que j'ai pas eu le temps de... Mais ça concerne la poursuite potentielle par la CPI de Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire que la pression, elle n'est pas seulement en interne. Elle n'est pas seulement du fait de son allié américain, mais aussi potentiellement, ce qui fait effectivement un problème, éventuelle poursuite justement par la CPI. Donc tout ça, ça s'accumule effectivement, ça va dans le sens, on va dire, d'une finalisation d'un accord, même si rien ne sera réglé de manière définitive, parce que de toute façon, le gouvernement israélien a considéré, et d'ailleurs il y a un consensus là-dessus, y compris avec Benny Gantz, hein, qui est son bouton, a déclaré que de toute façon, il faudrait qu'il y ait une opération à Rafah, mais elle serait différée d'autant à partir du moment où il y aurait un accord de 40 jours.
Sachant que c'est un dilemme aussi terrible pour Israël, on se souvient qu'en 2011, pour la libération du soldat israélien Gilad Shalit, 1027 prisonniers palestiniens avaient été libérés, parmi lesquels Yahya Sinwar, qui est l'actuel chef du Hamas dans la bande de Gaza, l'un des cerveaux du 7 octobre. Est-ce que c'est ça aussi que redoute Israël en libérer des otages, mais à quel prix ?
Bien sûr, et d'ailleurs c'est ce qui explique les pressions des deux ministres d'extrême droite, hein, qui veulent absolument pas parvenir à un accord pour une libération des otages, en considérant que c'est renoncer effectivement, c'est accepter un diktat de leur point de vue imposé par le Hamas. En réalité, il y a l'attente des familles qui est effectivement prégnante, hein, depuis, et qui se, avec les dernières vidéos, c'est pas un hasard, hein, pendant justement la fête de Pessah, les deux dernières vidéos qui accentuent cette pression. Donc Benjamin Netanyahou est obligé de toute façon d'en tenir compte, même si sur le fond, évidemment, rien n'est totalement réglé, puisque le secrétaire américain a rappelé le viatique de l'existence de l'État, ce dont ne veut pas entendre parler Benjamin Netanyahou, et donc de toute façon, la problématique, la perspective politique demeure posée. Mais en l'occurrence, pour l'instant, dans l'immédiat, c'est l'urgence, d'ailleurs, c'était le discours des opposants de Benjamin Netanyahou, l'urgence, c'est la libération des otages.
Et François Ehrenwein, est-ce que peut-être qu'on touche du doigt cet accord parce que le Hamas aussi est affaibli, ce qui fait qu'il est moins en position?
Et on a évoqué tout à l'heure la pression l'offre extrêmement généreuse faite au Hamas, mais la pression est extrêmement forte aussi sur le Hamas. S'il n'accepte pas, il a beaucoup à perdre. Actuellement, si on regarde le contexte, si l'accord ne se fait pas, 1,5 million de personnes à Rafah ont quelques bonnes raisons de s'inquiéter de l'offensive israélienne qui viendra s'il n'y a pas d'accord. Premier point. Deuxième point, dans toutes les capitales européennes, en tous les cas, et souvent ailleurs dans le monde, la solution à deux États est aujourd'hui beaucoup plus sur la table qu'elle ne l'était avant. Donc sur le plan diplomatique, le Hamas n'a pas intérêt à durcir sa position en ce moment. Il a intérêt à entrer dans une logique de compromis parce que Rafah, 1,5 million de personnes sont menacées à Rafah et que sur le plan diplomatique, la solution à deux États a repris du poil de la bête. Donc tout ça, ça fait de bonnes raisons pour le Hamas d'accepter. Le plus difficile à prévoir, c'est l'avenir, mais moi, je ferai le pari qu'il acceptera.
Vous avez vu que le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a annoncé aujourd'hui, je crois, que l'Europe était prête à reconnaître un État palestinien.
Comme la France qui s'interroge.
À la fin du mois de mai, comme la
février,
France aussi.
Macron l'avait
voilà,
envisagé.
Donc
ça
c'est
aussi,
vrai
que ça joue en termes de pression sur Israël.
Ah bah oui, forcément. Là, oui. Je crois que.
Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, Israël écouterait les États-Unis On entendait Anthony Blinken, Blinken met en garde
les armes,
Israël,
les armes et le soutien, si vous voulez.
Mais jusqu'à présent, ça n'a pas fonctionné.
Oui, mais je crois parce qu'il n'y avait pas eu de pression assez forte. Là, il y a eu des pressions beaucoup plus fortes ces derniers temps. Et Israël ne tient que par ce parapluie militaire. Il faut, faut quand même se dire ça. Et donc, si jamais les États-Unis voulaient aller plus à l'avant, eh bien, effectivement, Israël ne tiendrait pas. Mais je pense, moi, qu'Israël, de toute façon, même si elle accepte ce cessez-le-feu temporaire, voudra de toute façon poursuivre certains types d'incursions. En particulier, elle veut contrôler cette espèce de corridor qui a la frontière égyptienne qu'on appelle le corridor de Philadelphie. Elle a besoin de prendre position sur toute cette ligne, pour, selon Israël. Hein, selon Israël, elle a besoin, pour assurer sa sécurité, pour contrôler tous les tunnels, elle a besoin d'avoir cette... Donc je pense qu'on ne peut pas imaginer que dans l'esprit des Israéliens, il n'y ait pas une reprise des combats si le cessez-le-feu est accepté par Israël,
vous
par
le Hamas. François Ehrenlein, vous vouliez rebondir ?
Non, mais je pense que ça a été évoqué par Patricia à l'instant. La pression américaine sur Israël est immense. Si l'attaque de l'Iran a été déjouée, les drones et les missiles interceptés à 99%, c'est pas grâce à la puissance de Tsahal, c'est grâce au bouclier américain.
Ça a changé la donne, ça, David Rigoleros, cette attaque iranienne contre Israël,
déjouée ah oui,
notamment grâce aux États-Unis.
Oui, alors le fait qu'il y ait l'escalade est contenue, c'est effectivement parce qu'il y a eu une énorme pression américaine. Donc il y a eu des éléments de langage stratégique qui ont été ajustés, mais sur le fond, il y a eu un game changer. Hein. C'est-à-dire que c'est la première fois que le conflit est déclaré de manière avérée, officiellement entre Israël et l'Iran, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et on mesurera, pas de manière immédiate, mais à moyen séquence de ce basculement. En revanche, effectivement, l'obsession des Américains, c'est d'éviter que le conflit soit devienne une déflagration régionale. Et on a beaucoup glosé d'ailleurs sur le retrait américain et l'impuissance américaine, mais aujourd'hui, on voit quand même que ce sont les États-Unis hein, qui sont omniprésents dans la configuration régionale et qui et dont le poids permet, pour l'instant, en tout cas, de limiter le débordement et permet de contenir partiellement l'encombre.
Merci beaucoup David Rigoleros, chercheur rattaché à l'Institut français d'analyse stratégique, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Merci d'avoir été avec nous ce soir dans Les Informés. Tout de suite, le fil info avec Emmanuel Langlois. Il est pile 20h40.
Et après des mois de discussions infructueuses, le Hamas doit donc donner dans les prochaines heures sa réponse à la contre-proposition israélienne de trêve associée à une libération d'une partie des otages du 7 octobre en déplacement en Arabie Saoudite. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken appelle le mouvement palestinien à accepter cette proposition, selon lui, extraordinairement généreuse. Une réunion doit se tenir au Caire entre des représentants des négociateurs de l'Égypte et du Qatar. En France, la Sorbonne, occupée puis rapidement évacuée ce lundi, en écho à la mobilisation à Sciences Po en fin de semaine dernière, une cinquantaine d'étudiants pro-palestiniens avaient monté des tentes dans la cour de l'université. La police les a rapidement évacués. Il lui était attaqué par ses parents en diffamation après les avoir accusés de violence et de sévices dans sa jeunesse. L'écrivain Yann Moix a été relaxé aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Paris dans une émission de Canal+. En octobre 2022, il leur avait aussi reproché d'être raciste et homophobe. À l'étranger, une attaque de missile russe a tué au moins 2 personnes et fait 8 blessés dans la grande ville portuaire d'Odessa en Ukraine. Annonce du gouverneur local en déplacement à Kiev. Le secrétaire général de l'OTAN a lui insisté, l'Ukraine a besoin de davantage d'aide militaire pour gagner la guerre contre la Russie.
France Info.
20h, 21h, Les Informés, Agathe Lambray.
Toujours en compagnie d'Alexandra Schwarzbrod, directrice adjointe de la rédaction de Libération, Patricia Alémonière, grand reporter, spécialiste des questions internationales, et François Ehrenlein, éditorialiste politique au journal Réforme. Cette guerre entre Israël et le Hamas, dont on parlait à l'instant, a des conséquences en France. Après Sciences Po Paris, en fin de semaine dernière, un nouveau rassemblement de soutien à Gaza a eu lieu, aujourd'hui à la Sorbonne. Les manifestants ont été évacués par les forces de l'ordre. Que se passe-t-il, Alexandra Schwarzbrod, dans nos universités ?
Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, ce n'est pas vraiment dans nos universités, parce que je trouve que finalement, vu la situation à Gaza, à la limite, les universités sont plutôt calmes. Simplement, ça a démarré, c'est vrai, à Sciences Po, par des étudiants qui étaient en solidarité avec ce qui se passait, les horreurs qui se passaient à Gaza. À la limite, on peut les comprendre quand on a 20 ans, 25 ans et qu'on voit la situation à Gaza. Moi, je trouve ça normal et plutôt sain qu'on s'en émeuve. Donc ça, c'est plutôt... Et je trouve que c'est, en revanche, pas très sain de décrédibiliser l'expression pro-palestinien ou de tout, comme ce qui s'était
mais
passé,
c'est le cas
interdire... Alors, il y a plusieurs choses. Le problème, c'est que dans ce genre de manifestation, il y a parfois... il peut y avoir des dérapages et des propos clairement antisémites, ce qui là n'est absolument pas tolérable. C'est pour ça que les pouvoirs publics et les présidents d'université sont extrêmement prudents. Et il y a par-dessus une utilisation de cette émotion des étudiants par LFI, qui en effet a trouvé là une façon d'instrumentaliser la colère des étudiants pour son propre sa propre cause. On se rappelle que et là on sait que chez LFI les dirigeants de LFI sont parfois un peu ambigus sur la
justement,
question. On se rappelle de Jean-Luc Mélenchon qui avait refusé de qualifier de terroriste les attaques du 7 octobre.
Vous avez fait la transition, Manuel Bompard, leader de la France insoumise, a souhaité aujourd'hui que la mobilisation pour Gaza prenne de l'ampleur dans les universités et ailleurs. Et Rima Hassan, candidate aux européennes sur la liste de la France insoumise, a dit assumer totalement son appel au soulèvement. Écoutez.
Oui, je l'assume totalement. Moi, je fais référence à la définition du Larousse, donc je l'ai reprise ici pour cette interview. C'est un mouvement collectif et massif. Je sais précisément à quoi je fais référence quand j'appelle à ce soulèvement. Et effectivement, dans un contexte que nous sommes en train de connaître, qui est quand même un génocide sur lequel de nombreux étudiants se mobilisent, la rapporteure spéciale des Nations Unies sur le sujet a produit un rapport il y a quelques semaines, Anatomie d'un génocide, où elle explique que c'est un cas avéré de génocide et que très probablement la Cour internationale de justice sera amenée à qualifier ce génocide sur
soulèvement, génocide, les mots sont très forts. Que font les insoumis? Est-ce qu'ils jouent à un jeu dangereux ou est-ce qu'ils sont dans leur rôle à accompagner cette colère des étudiants?
Alors je crois qu'il y a plusieurs choses. Il y a leur position politique effectivement et le jeu qu'ils mènent actuellement, et tout le monde l'a analysé par rapport aux élections européennes, c'est-à-dire essayer de prendre des points et dans un type d'électorat. Ça marche à moitié, hein. Ils n'arrivent pas à dépasser les 6-7%, hein. Donc, cette politique à la limite de discours, de virulence dans les propos, est pas très productive sur un plan purement politique. En revanche, quand on parle de Rima Hassan, on a affaire à quelqu'un d'autre. On a affaire à une jeune femme qui est complètement d'origine palestinienne, qui était réfugiée en Syrie avec sa famille. On a quelqu'un qui a vécu par son histoire, la fameuse Nakba, c'est-à-dire les 750 000 Palestiniens qui ont été chassés d'Israël à la création de l'État d'Israël.
Ça, c'est ce qu'elle raconte.
Mais c'est ce qu'elle raconte, mais c'est sa vie. Elle est arrivée à 10 ans en France. Elle était après, elle a eu la nationalité française plus tard. Donc je pense qu'au-delà de cet appel au soulèvement que l'on peut dire à vision politique, à visée politique, en ce qui la concerne, je pense qu'il y a quelqu'un qui est quand même habité quand même par une cause qui est personnelle et qui la touche dans son intimité, puisqu'elle s'est toujours occupée des réfugiés qui sont palestiniens depuis qu'elle travaille. Elle était dans des associations, elle donnait des conférences, etc. Donc on a deux choses. On a effectivement cette femme qui est devenue maintenant le martyr de la cause des jeunes en France, en quelque sorte, puisqu'elle est aussi, comme Mathilde Panot, convoquée par la police, en quelque sorte.
Eh bien, on va...
Voilà. Et donc, il y a le côté politique, et puis il y a le côté personnel, dont on ne peut pas ignorer son histoire.
On va y revenir, mais François Ehrenwein, vous pensez que c'est la bonne stratégie, ça, pour les européennes, de la part des insoumis? On en
ça
parlait
pas,
dans
hein.
les sondages 6-7%.
Non, mais ça vient d'être évoqué à l'instant. Assurément, l'ambition de Jean-Luc Mélenchon, c'est pas les européennes, il prépare déjà la présidentielle, et il veut se constituer un électorat de jeunes, notamment dans les banlieues, consolidé autour de sa ligne politique, avec tous les abus qui ont caractérisé son appréciation du conflit entre les attentats d'abord du 7 octobre, enfin, l'attaque terroriste du 7 octobre, et ensuite tous les discours qu'il tient depuis un moment.
Et elle passe par Sciences Po, cette stratégie, alors.
Pardon ?
Elle passe par Sciences Po, cette stratégie, maintenant, Jean-Luc Mélenchon.
Tous les jeunes sont bons à prendre, je dirais, dans une logique parfaitement cynique et mélenchoniste, on peut arriver à ce résultat-là.
Il a récupéré.
Mais, je voudrais balancer mon discours par cette remarque. Reprocher à des élus d'LFI d'avoir fait l'apologie du terrorisme, c'est y aller vraiment fort. Et je pense que la condition du débat démocratique, et je dirais la chose suivante, ça va peut-être heurter un certain nombre de gens, si on accepte toutes les poussées d'antisémitisme. Et ça, il faut être absolument intransigeant sur cet aspect des choses. Je pense que dans le débat public, aujourd'hui en France, on doit pouvoir critiquer la politique israélienne à Gaza ou en Cisjordanie. Parce que dans le champ des horreurs, c'est quand même pas mal ce qui se passe là-bas.
Vous faites référence à la convocation demain de Rima Hassan et Mathilde Panot, deux insoumises pour être entendues pour apologie du terrorisme. On va y revenir, mais d'abord, à l'opposé totalement de la stratégie des insoumis, le gouvernement joue la fermeté. Et en même temps, on sent l'exécutif un peu gêné. Il ne veut pas franchir certaines limites. Écoutez Gabriel Attal, le Premier ministre.
Il n'y aura jamais de droit au blocage et jamais de tolérance avec l'action d'une minorité agissante, dangereuse, qui cherche à imposer ses règles, une idéologie d'outre-Atlantique à nos étudiants et à nos enseignants.
Voilà, fermeté de Gabriel Attal, Alexandra Schwarzbrod. Oui, et en même temps, l'exécutif refuse de suivre la région Île-de-France qui annonçait ce soir qu'elle suspendait ses financements à Sciences Po. Est-ce qu'il était convaincant, le Premier ministre ? À vous voir, j'ai l'impression que non.
Tout ça est lunaire, quand même. Tout ça est lunaire. Là, on parle de quelques dizaines d'étudiants, minorité dangereuse à l'idéologie venant de
Vous trouvez que l'exécutif en fait trop ? Parce que pour certains, il n'en fait pas assez.
Incontestablement.
Moi, ça me paraît lunaire.
Tonnes, mais,
encore une fois, il faut toujours remettre ça dans son contexte d'élection de campagne électorale, et avec une droite qui pousse pour, on voit bien, plus d'autorité. Mais là, de quoi on parle ? On parle de quelques dizaines d'étudiants. Les campus ne sont pas à feu et à sang en France.
Couper les finances.
Et pourtant, la France est quand même le pays qui accueille la plus grosse communauté juive et la plus grosse communauté musulmane d'Europe. Moi, je trouve que c'est assez calme, vu ce à quoi on assiste depuis le 7 octobre, 7 octobre compris, qui était quand même une monstruosité, et ensuite tout ce qui s'est passé, ces massacres sur Gaza. Je trouve que c'est pas si inquiétant.
Mais peut-être
que
l'exécutif craint la contagion aussi, non ? On a vu que ça s'était étendu à la Sorbonne quand on voit la situation aux États-Unis.
Je crois que l'exécutif, en fait, et c'est comme LFI, il joue une carte politique en ce moment. Donc pour rassurer, il veut frapper fort. Il veut montrer qu'il est dépositaire d'une autorité souvent contestée, puisqu'effectivement une grande partie de l'opinion publique lui reproche de ne pas être assez fort. Donc l'autorité, Gabriel Attal, joue ce rôle-là de vouloir ramener l'autorité comme le ministre de la Justice.
On s'interrompt un instant pour le fil info d'Emmanuel Anglin, mais on va revenir sur tout ça et je vais vous faire écouter quelqu'un qui n'a pas du tout la même ligne que ce que vous étiez en train de dire, Patricia Alébonia. Le fil info d'Emmanuel Langlois, 20h50. Non, bien sûr, mais on va y revenir.
J'étais factuelle.
Il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement deux femmes en 2021 sur le tournage du film Les Volets Verts. Après avoir passé la journée en garde à vue dans un commissariat parisien, Gérard Depardieu sera jugé en octobre. L'acteur s'est vu remettre une convocation devant le tribunal correctionnel. À moins de 6 semaines maintenant des élections européennes du 9 juin, Gabriel Attal se dit désormais disposé à débattre avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, alors que jusqu'à présent, le chef du gouvernement n'envisageait d'échanger qu'avec Marine Le Pen. C'est la fin de 5 jours d'incertitude en Espagne, où le Premier ministre Pedro Sanchez annonce qu'il reste en fonction. Annonce qui intervient après, selon lui, une campagne de discrédit organisée par l'opposition de droite à la suite de l'ouverture d'une enquête contre son épouse pour trafic d'influence et corruption. Et puis Victor Wembanyama de retour en France l'an prochain, au moins pour un week-end. La NBA annonce en effet que 2 matchs auront lieu à Paris les 23 et 25 janvier 2025, donc au lieu d'un seul ces dernières années, avec en vedette donc les San Antonio Spurs et sa star prodige du basket français.
France Info.
20h, 21h, les informés, Agathe Lambret.
Toujours en compagnie d'Alexandra Schwarzbrock, directrice adjointe de la rédaction de Libération, Patricia Lémonière, grand reporter, spécialiste des relations internationales, et François Ehrenwein, éditorialiste politique au journal Réforme. J'en parlais à l'instant, je voudrais qu'on écoute l'essayiste Alain Minc. Lui, il appelle à remettre les choses d'équerre et il a ses idées. Écoutez.
Je pense que l'État doit maintenir ses financements et remettre de l'ordre dans cette boutique. Et que pour remettre de l'ordre dans cette boutique, il va falloir sortir d'un mécanisme de désignation d'un directeur avec 28 comités, 4 conseils qui vont aboutir nécessairement à une solution mollassonne. Il y a des moments où l'État qui finance peut, pendant une période de temps limitée, désigner quelqu'un à l'autorité incontestée et qui mettra fin à ses errements.
Il faut mettre sous tutelle Sciences Po, Alain Minc ?
Mais bien sûr, pour une période limitée.
Voilà, alors Alain Minc, qui appelle à mise sous tutelle de Sciences Po, comme Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, ce ne sont pas de dangereux extrémistes. Mais pour vous, on nage en plein délire, là, François ?
Moi, je pense, y compris la proposition de Valérie Pécresse de couper les crédits à Sciences Po, au motif que des gens ont manifesté en soutien à la cause palestinienne ou même ont occupé une partie des locaux de Sciences Po, ça me paraît absolument délirant. Si on ne supporte plus que des universités montent des cris de colère, dans quel pays vit-on ? Et pourquoi ? Alors la désorganisation de Sciences Po, le système d'élection, c'est un débat distinct de ce qui se passe en ce moment à Sciences Po.
Ils ne font pas que manifester, ils bloquent aussi les cours. Et il y a des étudiants qui aimeraient pouvoir aller manifester. Mais Patricia Lémonière, je parlais tout à l'heure du risque de contagion que redoute l'exécutif. Vous connaissez bien les États-Unis. Est-ce qu'on assiste à une américanisation de nos universités où vous vous dites ça n'a rien à voir ?
Je veux dire qu'il y a toujours une influence avec un temps de moins deux qui arrive chez nous. Souvenez-vous, 66, le soulèvement dans les universités américaines pour la défense et bien ou la l'égalité des Noirs et aussi contre la guerre au Vietnam. Tout ça, après, ça mûrit, il y a eu un bouillonnement dans les universités, un remue-ménage intellectuel et c'est arrivé chez nous en 68. Bon, donc peut-être qu'aujourd'hui, LFI, je crois, a joué de l'opportunité vis-à-vis de Sciences Po. C'est pas LFI qui a monté Sciences Po. Ils ont vu là une bonne cause.
Mais donc ça veut dire que l'exécutif a peut-être des raisons de s'inquiéter. Ce mouvement pourrait se propager.
Alors, pour
quand on voit que quasiment tous les campus aux États-Unis
sont touchés. Soulèvement. Enfin, vous avez bien vu, LFI appelle au soulèvement que tous les Français doivent rejoindre les universités. Nous en sommes pas là. Je partage complètement l'avis d'Alexandre. Pour l'instant, c'est quand même un mouvement qui est minoritaire. Il faut voir ce que... Parce que là, les étudiants rentrent de vacances, donc on va quand même voir ce qui va se passer.
Et ils entrent en période d'examen.
Voilà.
Ils entrent
mais, en période ce que j'allais vous dire, c'est aussi la période d'examen. Et quand même, une certaine partie des étudiants a quand même très envie de passer ces examens et de ne pas perdre une année. Donc on va bien voir ce qui va se passer, mais... il faut aussi laisser les étudiants, c'est le lieu où on a le droit de réfléchir et en théorie le lieu où on a le droit de dire ce que l'on pense, que l'on soit pro-israélien, pro-Netanyahou ou pro, si vous voulez, palestinien. Je ne dis pas pro-Hamas.
Dans ce contexte, Ehrenwein l'évoquait tout à l'heure et je vais vous donner la parole à Alexandra Schwarzbrod. Rima Hassan, numéro 7 sur la liste LFI aux européennes, Mathilde Panot sont convoquées par la justice demain pour apologie du terrorisme. Est-ce que c'était la justice de trancher ce genre de débat ?
Mais non, absolument pas. Là, il n'y a pas d'apologie du terrorisme. Et ça fait plus de mal qu'autre chose parce que justement, ça permet à Mathilde Panot et à Rima Hassan de se victimiser et de faire monter encore plus la colère et la hargne et la rancœur. Et on n'a pas besoin de ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que de toute façon, demain, s'il y a une trêve, s'il y a une trêve, j'ai dit bien si, parce que vraiment rien n'est suffit du moindre petit grain de sable pour que ça ne se fasse pas. Mais s'il y en avait une, tout ce qu'on est en train de dire, ça va se calmer. En revanche, s'il n'y a pas de trêve et si Benjamin Netanyahou, chauffé à blanc par ses ministres d'extrême droite, décide d'entrer dans Rafah et que ça fasse des dommages humains considérables, alors là, ça va être un embrasement, pas seulement en France, mais partout, dans le monde entier. Donc, voilà,
ça dépend aussi,
là, si ça se trouve, demain, tout peut changer.
Tout le monde retient son souffle.
Voilà.
Oui, et j'ajouterais que le comparatisme entre les États-Unis et la France n'a pas grand sens. Ce qui fait ressembler ces deux expériences, c'est le besoin ou l'aspiration à la révolte devant certaines situations chez les jeunes. Et ce besoin, je rappelle, ou ce sentiment est constitutif de la jeunesse et on ne va pas commencer à reprocher aux jeunes d'être jeunes.
Mais il y a la France.
D'ailleurs, on le trouve dans d'autres pays européens. Hein.
Exactement.
Il y a d'autres facs en Europe aussi qui bouillonnent actuellement. Donc il n'y a que la France.
Mais la France insoumise, ce n'est pas la jeunesse, c'est un mouvement politique qui accompagne ce mouvement.
On l'a dit.
Vous êtes choqué par les convocations demain de deux membres de la France insoumise. Il y a aussi des conférences de Jean-Luc Mélenchon qui ont été annulées. Est-ce que François Hernanovaï, la France insoumise a raison de dénoncer la censure?
Enfin, j'ai beaucoup de mal à soutenir la France insoumise à cause de toutes les ambiguïtés qu'on a relevées sur la question du 7 octobre. Mais sur le plan des libertés publiques, je préfère m'intéresser aux libertés publiques qu'à la France insoumise.
Et sur la qualité du débat politique aussi, qui est quand même sérieusement en train de s'abîmer. Le débat politique
en France,
ça recoupe tout ce qu'on a dit.
Pour élargir mon propos, je dirais qu'il faut être attentif au respect des libertés publiques en France. Au nom de la sécurité, depuis un certain nombre de temps, les législations d'exception s'installent, les pratiques d'exception s'installent, le rôle des préfets est sans cesse augmenté au détriment de la justice administrative. Et moi, je pense que le recul des libertés publiques est un vrai sujet en France.
Et c'est la démocratie qui est en jeu, en fait.
Exactement.
François Hernanovaï, la une du journal Réforme de cette semaine.
Eh bien, on a travaillé sur la montée des populismes en Europe et le fait que cette montée des populismes, pas seulement en France mais ailleurs, menace l'essence de ce qu'a été l'Europe.
Alexandra Schwarzbord, la une de Libé.
Alors nous, on a fait le tour de l'Europe en train et on raconte comment le train permet à la fois de briser les frontières, d'être plus écologique. Bref, c'est le moyen de transport de demain. C'est une super balade qu'on vous raconte demain à la une de Libé.
Merci à tous les trois. Merci aussi à Patricia Alémonière, grand reporter et spécialiste des questions internationales. Alexandra Schwarzbord, je précise juste que vous publiez un livre et il est différent de vos précédents livres. C'est un récit personnel. Il s'appelle Éclat, c'est ça ?
Autobiographique, oui. Je raconte notamment mes années de correspondante à Jérusalem et aussi toutes les crises vécues par Libération. Il y en a eu pas mal. Et voilà, c'est Éclat au Mercure de France.
Et merci. Demain, les informés reviennent à 9h avec Salia Braclia et Renaud Dely. Nous, on sera là à 20h.